Voilà, je vous propose de prendre la parole et je suis heureux notamment des chants et de ce qui a été apporté parce que ça complète bien. Là, ça, c'est pas le message, mais ça complète très bien ce qu'on va voir ce soir parce que ce soir j'avais à cœur de parler des divertissements, des distractions et je vais prendre en support de cette prédication ce petit appareil qui a débarqué dans nos vies. Et qui nous a bien changé, qui nous a bien révolutionné nos vies. Et régulièrement, je vais y faire référence, mais bien sûr, ce n'est pas une prédication qui traite de ça, de ce téléphone, mais tellement de choses peuvent nous amener à être distraits, tellement de choses peuvent nous amener à être détournés de ce vers quoi le Seigneur veut nous amener. Et voilà. Je m'en sers comme support, mais ce n'est pas, vous pouvez, et bien sûr, dans votre tête, imaginer autrement le message que je vais vous apporter ce soir. J'aimerais qu'on puisse lire un premier texte dans l'épître première de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, et verset 12. Si je vous pose une question avant de lire le texte, le feu, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend ce qu'on en fait. Si je m'en sers pour cuisiner, si je m'en sers pour chauffer, c'est très bien. Mais si je m'en sers pour incendier et ravager, c'est pas bien. D'une même chose, il peut y en avoir du bien ou du pas bien. Donc je ne suis pas en train de dire que telle ou telle chose est bien ou pas bien. Et on va y arriver avec ce premier texte. Au verset 12, il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » On voit ici que l'apôtre Paul dit bien qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais attention, il y a un gros attention, parce qu'il dit bien aussi qu'il ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Et si je suis asservi, ça veut dire que ce à quoi je suis asservi n'est pas utile, ne m'est pas utile, alors que ça pourrait être utile à d'autres, parce qu'ils n'en sont pas asservis. Vous comprenez la différence? Si ça commence à m'asservir, attention. Alors on va parler entre autres du smartphone, mais ça peut être tout, ça peut être la peinture, ça peut être le jardinage, ça peut être ce que vous voulez. À partir de quand je suis asservi? Et si je suis asservi, ça veut dire que ce qui m'a servi ne m'est plus utile. Ce qui est utile ne peut pas m'asservir, ne doit pas m'asservir. Je peux faire ce que je veux du moment que je n'en sois pas esclave. L'apôtre Pierre écrit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, est-ce que je suis esclave par quelque chose? Première question qu'on peut se poser ce soir, est-ce que je suis esclave de quelque chose? Est-ce que Dieu est mon seul maître, oui ou non? Parce que si je dois être esclave de quelque chose, ou je dirais plutôt de quelqu'un, c'est de Dieu. Et Dieu est un bon maître, qui prend soin de ceux qui le servent. Et il en prend un très très grand soin, c'est un bon maître. Et il s'occupe de la plus merveilleuse des manières, nous qui le servons. Et c'est une grâce de servir un tel maître. Seulement, je repose ma question, est-ce que Dieu est notre maître? Ou est-ce que je dirais, est-ce que Dieu est notre seul maître? Ou est-ce que suis-je asservi par quelque chose d'autre? Un deuxième texte, vous allez voir qui ressemble, hein, dans la même épître, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Même début, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce genre de verset, où on voit un petit point-virgule au milieu, il y a une sorte de première phrase au début et une deuxième phrase ensuite, c'est très hébraïque. Parce qu'on dit une chose et on la répète sous une autre forme. D'ailleurs, c'est valable pour le verset qu'on a lu tout à l'heure. Ce verset-là, c'est pareil. Autrement dit, si je prends ce verset à l'envers, je dirais ceci, que ce qui est utile édifie. Vous êtes d'accord avec moi? Selon ce verset, ce qui est utile doit édifier. Construire, bâtir, faire du bien, exhorter. Donc est-ce que, si je reprends exemple sur ça, est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça m'a servi? Etc, etc. Il y a déjà pas mal de questions qui peuvent venir. Le smartphone, il a débarqué dans notre vie. Et il y a un petit côté merveilleux à cet appareil, au sens magique. Avec ça, on peut aller sur Internet, on peut écouter de la musique, on peut payer ses factures, on peut faire des choses utiles. On peut prendre des photos, on peut filmer, on peut téléphoner, c'est devenu accessoire aujourd'hui. On peut se repérer, on peut même accorder son instrument de musique avec. On peut mesurer, on peut faire ses courses avec. On peut faire tellement de choses avec ce petit appareil. Et pourtant, est-ce que vous saviez que c'était quand même... Il n'était pas prédit, mais il y a un texte qui me fait grandement réfléchir. On va le lire ensemble dans Apocalypse, au chapitre 11 et verset 8. À l'époque où ça a été écrit, les premiers lecteurs ont dû se dire « il est fou ». Parce que c'est impossible. Aujourd'hui, c'est un texte qui, tellement nous y sommes habitués, on n'y fait même pas attention. Réfléchissons vraiment au contexte de l'époque. Il est question du moment où les deux témoins vont mourir et vont monter au ciel, ou vont mourir. Verset 8, il est écrit ceci. « Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. » Vous êtes-vous arrêté sur le fait que toute langue, toute nation, toute tribu puisse observer en même temps un même événement ? Écrit peu après la mort de Jésus, c'est impossible. La terre est ronde, comment voulez-vous qu'une même chose puisse être observée de l'autre côté de la terre? C'est impossible. Physiquement, c'est complètement impossible que l'humanité tout entière puisse observer une même scène en même temps. Aujourd'hui, on se rend compte bien que ce verset est vraiment actuel. Aujourd'hui, dans la seconde qui suit un événement, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut assister en direct à un même événement. C'était prédit dans la parole. C'était prédit dans la parole. Ça passe inaperçu comme ça. Mais quand on s'arrête, on voit bien que la parole est vraie. Et elle est actuelle. Autrement dit, c'était bien prévu qu'un jour ce soit possible. Et ce téléphone, entre autres, les distractions qui nous attachent deviennent ainsi comme une drogue. Tellement je connais quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, mais à chaque fois, le concentré technologie l'impressionne tellement qu'il en est ébahi. Et il est tout le temps dessus. Il mange à table, dès qu'il se pose une question, tac, il va dessus, il va vérifier la définition, enfin bref. Il est complètement attaché, c'est devenu le prolongement de son bras. C'est quand même malheureux. Parce qu'à l'origine, on n'a pas un téléphone sur la main. Il n'est pas collé, que je sache. On a une main. Et ça devient comme une drogue. Il y a des statistiques qui disent que sur 8000 chrétiens, 54% admettent vérifier leur téléphone juste au réveil. Premier réflexe. Tac, je regarde mon téléphone. Qui le fait? Je ne vais pas demander aux mains de se lever. Mais à mon avis, je ne serais pas surpris que la proportion soit conservée. 73% des personnes vérifient le téléphone sur Facebook au réveil, sachant qu'elles sont allées le consulter juste avant de dormir. Pour dire à quel point on peut être attaché. Ça me fait de la peine de devoir évoquer ce genre de sujet, mais je crois qu'il est nécessaire que nous en parlions. Le problème de Facebook, comparé à une drogue classique, c'est un toxicomane qui l'a dit. Pas un toxicomane, mais un médecin contre ça. Il dit le problème de Facebook, c'est que c'est la capacité, contrairement aux toxicomanes, ceux qui sont accros à Facebook, aux réseaux sociaux, ils ont la capacité de contrôler leur comportement. Ils sont capables de dire « si je veux, je n'y vais pas ». Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas la motivation et ils n'en voient pas non plus le danger. Donc ils y vont. Et finalement, la drogue, le danger est bel et bien là. Le fait d'être ainsi accroché, ça nous rend sujet à la dépression, à l'anxiété. Ça, ce sont des données pas chrétiennes, bien sûr. Hein. Et ça nous pose un problème majeur, c'est qu'on devient incapable de se concentrer sur un travail ou quoi que ce soit d'autre, une activité qui nous demande de nous concentrer, et ça nous empêche de dormir aussi. On vient de chanter ce chant qui nous parle de l'intimité avec Dieu. Vous savez, ces moments où Dieu veut nous dire, comme on l'a entendu tout à l'heure, des choses profondes, des choses qui nous font peut-être même réfléchir, des choses qui nous font avancer, qui nous font progresser, des moments particuliers où on est amené à écouter, à se concentrer. Et avec ça, c'est impossible. C'est complètement impossible. Celui qui est accro ainsi ne peut plus se concentrer. C'est devenu impossible. Tellement il se laisse distraire par ceci, par cela. C'est quelque chose que j'ai connu. Et je me rappelle qu'il y avait des fois des moments, je l'allumais juste par besoin de l'allumer. Pour voir s'il n'y avait rien. Alors qu'il n'avait pas sonné, il ne m'avait rien dit. Mais des fois, je l'allumais juste pour voir l'écran, peut-être voir l'écran briller, j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut être accroché à ce truc. J'aimerais vous citer aussi une interview de, il n'est plus PDG, mais je pense, j'ai plus la télé, donc je suis plus trop au courant. Il était à TF1, il s'appelait Patrick Lelay. Une fois, il a été interviewé et il expliquait la raison d'être de sa chaîne. Voici ce qu'il dit. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. Imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, par exemple, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc on se fait lessiver par ce que nous regardons, de manière à pouvoir recevoir les publicités, de manière à ce qu'elles s'imprègnent bien. Et il y a un autre proverbe qui dit que si un produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Tout se paye. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, c'était une introduction, excusez-moi si c'est un peu long, la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 7. Et on va en arriver au cœur du sujet. 1 Pierre 4, 7. Je vais vous lire la version Semeur qui dit ceci. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Je répète. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Excusez-moi de le redire, mais c'est bientôt. Menez donc une vie équilibrée. C'est un avertissement qu'il nous faut vraiment prendre au sérieux, surtout dans le temps dans lequel nous vivons. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Il y a un pasteur américain qui a dit que un des grands usages qu'auront Facebook et autres réseaux sociaux au jour du jugement, c'est qu'ils apporteront la preuve que l'homme avait bien le temps nécessaire pour prier. Comment est-ce que je gère mon temps ? Est-ce que je me laisse accaparer par ceci, par cela ? Est-ce que j'arrive à avoir mes yeux fixés là où le Seigneur m'appelle à les avoir fixés, à savoir au ciel, aux choses d'en haut ? Ou est-ce que je suis attiré par des choses de ce monde et le soir je vais m'endormir dépité en me disant « j'ai encore passé 3 heures sur Facebook pour rien ». Le divertissement est trompeur. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Il y a 2 définitions par rapport aux 2 mots que j'aimerais aborder. La distraction. Aujourd'hui, on entend plus le fait de se distraire, le fait de prendre du plaisir. Or, la première définition de ce mot, c'est étourderie, manque d'attention. Quand on dit que quelqu'un est distrait, ça veut dire qu'il ne fait pas attention. On le comprend très bien à l'école, par exemple. Quand j'étais à l'école, on me disait que j'étais étourdi. Le deuxième sens, c'est effectivement, mais c'est bien le deuxième, c'est le divertissement, ce qui est propre à délasser l'esprit, un passe-temps. Alors les synonymes, c'est intéressant aussi, passe-temps, diversion, divertissement, délassement, récréation, amusement. Et le verbe divertir, ça va vous surprendre. La définition du dictionnaire, parce que divertir, dans le sens premier, ça veut dire détourner. Ça peut être détourner quelqu'un d'une préoccupation. C'est distraire en amusant, mais vous comprenez bien que c'est dans le but de détourner la personne. Le divertissement, c'est pas si anodin que ça. Aujourd'hui, on est dans le monde du divertissement. On veut se divertir, on veut passer du temps, on veut être tranquille, on veut être dans les loisirs. C'est pas mal de se loisir, attention. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de loisirs. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de prendre un peu de temps pour se divertir. Ce que je suis en train de mettre en lumière, c'est le problème quand le divertissement devient la principale raison d'être. J'aimerais qu'on puisse lire un passage ensemble dans la parole où il est question du divertissement dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Et on voit très très bien où mène le divertissement quand il en devient le but. Exode 32. Verset 1er, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » De l'Éternel. C'est incroyable, hein? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes à l'Éternel et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et voilà ce qui va attirer l'oreille du Seigneur. Il entend des bruits de fête, de danse, et le sens de ce mot ici est très très fort, parce qu'il ne parle pas simplement que de manger et de boire, mais ça va bien plus loin que ça. Quand on mange beaucoup, quand on boit beaucoup surtout, il se passe des choses qu'on est tous amenés à regretter après, et c'est très certainement ce vers quoi est allé le peuple. C'est pas écrit, mais le mot en lui-même, il est différent de celui qu'on a lu tout à l'heure. C'est un mot qui est très très fort de sens. On voit ici que le divertissement est devenu le but. À partir du moment où il y a une idole, ici on a un veau d'or, eh bien on voit qu'on va être poussé vers des choses, le divertissement en est une, et il peut devenir l'idole. L'idole a été justement le prétexte pour se divertir. Mais finalement, c'était le fruit de leur adoration. C'était de se divertir. Les distractions nous trompent. Alors qu'on croit qu'on ne fait rien de mal, on se rend compte qu'on alimente quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Nos distractions, par exemple, peuvent nous permettre aussi de garder nos distances avec le travail. Quelqu'un qui est distrait, je prenais l'exemple de l'école, un enfant qui est distrait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être dans la lune, comme on dit, tout le temps, mais il n'arrivera pas à apprendre. Il n'arrivera pas à écouter correctement. Il n'arrivera pas à recevoir ce qu'on veut lui transmettre, ce qu'on veut lui enseigner. Et le problème est que on en arrive à être tellement dans nos distractions qu'on n'en arrive même plus, même dans un temps où on voudrait être avec Dieu, on n'arrive même plus à rester concentré, on n'arrive même plus à se plonger, et on dit, mais j'y comprends rien à la parole de Dieu. Mais oui, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, lire les textes, réfléchir aux choses, et prendre le temps de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Si, à la lecture de la parole, je le lis juste comme ça, et que je ne prends pas le temps nécessaire pour me concentrer, pour me divertir, et en plus, imaginez, ça c'est du vécu. J'étais en prière un matin, et alors que j'avais du mal à rentrer dans ce moment-là, tac, le téléphone qui sonne, petite notification. Alors là, j'étais en prière, je fais, bon, je fais quoi? Je regarde pas. Et puis au final, je choisis de regarder. Et voilà ce que je vois. Un tel veut devenir votre ami sur Facebook. J'ai dit, tout ça pour ça. Je me suis laissé distraire. On n'est pas capable de s'isoler. Or, pourtant, on va le lire. Jésus est très très clair. Matthieu 6. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour se montrer aux hommes, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Oui, mais quand je passe du temps devant Dieu, il ne me parle pas, j'entends rien. Quand je me mets en prière, c'est vide, il n'y a rien qui se passe. Mais à la moindre distraction possible, on réagit. Il est hors de question de passer un temps devant Dieu en mettant le téléphone de côté. Il est hors de question même de passer un temps devant Dieu en mettant de la musique de fond. C'est malheureux, mais je l'ai entendu. Moi, j'arrive pas à avoir un temps devant Dieu sans musique. C'est impossible. Je ne parle pas pour moi, bien sûr, je vous dis ce que j'ai entendu. Mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à entendre, à discerner la voix de Dieu à travers ce qu'on lit, à travers le moment de prière qu'on est en train de passer devant Dieu. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir recevoir du Seigneur si on se met déjà en porte-à-faux avec ce genre de texte que nous venons de lire. Le Seigneur nous dit bien qu'il nous faut apprendre à nous isoler pour que nous puissions être pleinement réceptifs à ce qu'il veut nous dire. Mais nous, on fait pas attention et on laisse ceci, cela nous distraire, on laisse ceci, cela nous déranger. Et au final, on ne reçoit rien. On n'arrive pas à apprendre, alors que Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Et ô combien est vraie cette parole, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et une fois de plus, on n'y fait pas attention. Pourquoi ? Parce qu'on s'est laissé distraire. Parce qu'on n'est pas concentré. Parce qu'on ne veut pas, finalement, on veut satisfaire notre légalisme en se disant « j'ai fait mon culte personnel, mais on n'y a pas mis les formes. On ne l'a pas fait sérieusement. On a été léger. » Le Seigneur, s'il nous dit ainsi de nous isoler, s'il nous encourage ainsi à faire en sorte que nous ne soyons pas distraits, déconcentrés, c'est parce qu'il désire nous donner. Il désire nous faire du bien. Il désire que nous puissions entendre sa voix. Parce qu'il parle, ça c'est sûr. Il parle. Il voudrait que notre esprit, on soit capable de comprendre, de faire des liens quand on lit la parole avec les choses que Dieu veut nous dire. Dieu nous aime tellement. Et il nous parle, c'est sûr. Seulement, nous, on passe du temps à rester distrait. Il y a un autre aspect des distractions, c'est qu'elles nous détournent d'une mission très importante, celle que Jésus lui-même nous a confiée. Allez par le monde et faites des nations les disciples. Quand on va dans le métro, dans les transports en commun, c'est très très facile à voir. On est tous comme ça. Non mais c'est vrai. Vous allez dans un métro, transport en commun, tout le monde est comme ça. Les yeux rivés sur son téléphone. On est arrivé à une époque, ça me fait sourire, enfin ça me fait pas sourire justement. J'ai le grand-père de ma femme, lui me fait sourire parce que quand il connaît personne, il arrive dans un village. Comme il dit, le matin, il va chercher son canard, sa baguette, etc. Et en 3 jours, il est au courant de pas mal de choses qui se passent dans le village. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il dit bonjour aux gens, parce qu'il parle. Ça commence par des choses normales, mais au fur et à mesure, il arrive à avoir des sujets de conversation. Et je suis moi-même impressionné de voir à quel point il arrive, quand il venait chez moi en vacances pour la semaine. Il était au courant de trucs qui se passaient dans le village, moi je ne l'étais pas alors que j'y vivais. Mais pourquoi ? Parce que les mentalités ont changé. Aujourd'hui, c'est quand on arrive dans un lieu où on pourrait être interpellé par des gens, on sort notre bouclier. Notre bouclier anti-relation sociale. Et on va sur les réseaux sociaux. Surtout que je le sorte vite, de peur qu'on ne m'interpelle, de peur qu'on ne me parle. Mais pourtant, je crois que le chrétien, sa place, c'est d'être à l'écoute. Je crois qu'il peut y avoir des moments. Dieu peut susciter des directions. Celui qui est soucieux de faire la volonté de Dieu dans sa vie, le Saint-Esprit, à la manière d'un Philippe, peut le conduire à aller prendre un transport, se retrouver à côté d'une personne qui a besoin de parler. Et si cette personne a les yeux rivés dessus, voire même le bouclier supplémentaire, met les écouteurs sur les oreilles, histoire de bien dire à tout le monde « ne me dérangez surtout pas », comment cette personne pourra-t-elle être utilisée par Dieu ? C'est pas possible. Et il y a des endroits où le chrétien, il faut qu'il soit à veiller. Je crois qu'il y a des endroits où celui qui aime le Seigneur, surtout quand il est dans le monde, quand il est en public, il peut être utilisé par Dieu. Qui réfléchit à cette dimension de notre ministère? On a tous un ministère, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je disais en introduction de ce moment que nous sommes tous des ambassadeurs, des représentants. Cela veut donc dire qu'il nous faut être à l'écoute. Quand je suis dans un lieu public, est-ce que je suis enfermé sur moi-même ou est-ce que je suis dans un état d'esprit où je dis au Seigneur, ok, si tu as besoin de moi, je suis là. Et là, comme par hasard, il y a le voisin du métro qui commence à dire que ça va pas. Je l'ai vécu, ça. Que ça va pas, que ceci, que cela. Pourquoi il me parle? Ben, c'est bien. Alors, je réponds à la question si je suis disponible. Mais si je suis verrouillé, Dieu ne peut même pas se servir de moi. Je suis inutile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il m'a asservi. Parce que je ne peux plus sortir sans mettre les écouteurs. Je ne peux plus sortir sans être dans un lieu, une salle d'attente ou quoi que ce soit, sans le consulter sans cesse. Et je ne peux plus être interpellé par qui que ce soit. La Bible dit une chose, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La mission de Dieu, c'est celle-ci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de Dieu, elle est claire. Et il ne va pas falloir que je me verrouille, parce que si je reste dans ces distractions-là, je ne pourrai pas être apte à accomplir la mission que Dieu veut me confier. Est-ce que, quand dans ma vie, tous les jours, j'ai à cœur cette prière, dire « Seigneur, si tu as besoin de moi aujourd'hui, aide-moi à être disponible, que je puisse être utile. » Les distractions, ce que j'observe aussi, nous permettent de garder nos distances avec la pensée de l'éternité. Je crois que, peut-être j'aurais pu aborder ce point-là plus tôt, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sans cesse à courir, parce qu'elles veulent surtout éviter de penser à une chose. L'éternité, qu'est-ce que tu vas en faire? Et si le fil de ta vie venait à être coupé par Dieu, où est-ce que tu vas? Si ta vie doit être reprise, où est-ce que tu vas? Alors, comme cette question dérange, on fait attention de ne pas y penser surtout. Alors, on évite le silence. On a des distractions à droite, à gauche. On a des activités à n'en plus pouvoir, histoire d'être sûr d'être bien occupé du matin jusqu'au soir. Il est urgent de ne pas penser. Il est urgent de combattre ce silence qui nous accuse. J'ai parlé de la conscience la semaine dernière. Ce silence qui permet à notre conscience de nous parler. On ne veut pas l'écouter parce qu'elle nous accuse. Parce qu'il y a un problème. Parce que, oui, on a chanté ce chant qui nous parle de la croix du Seigneur Jésus, son sang qui a coulé pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et celui qui, devant Dieu, a demandé pardon pour ses péchés, celui qui a fait la paix avec Dieu, celui qui a demandé à Dieu qu'il l'éclaire sur sa situation, celui qui a eu cette démarche honnête et sincère de venir à Dieu et de lui dire « Mais si tu existes, montre-le-moi, révèle-toi à mon cœur. » Alors, si tu as fait cette démarche, tu peux demander à Dieu qu'il t'éclaire. Il t'a peut-être éclairé. Celui qui va plus loin, qui a compris que Jésus était mort pour lui sur la croix et a demandé pardon, ayant eu la révélation de son péché par Dieu, il est sauvé et il peut être heureux dans ce silence parce qu'il est en paix avec Dieu, parce qu'il est en paix avec sa conscience qui est purifiée. Ce silence où on peut recevoir du Seigneur, l'intimité de Dieu, le moment où vraiment il veut pouvoir nous donner. On a cette histoire avec Marthe et Marie, on l'a partagée la semaine dernière, où on a Marie qui est assise à écouter, et Marthe qui est prise dans ses activités. Elle le fait avec un mauvais état d'esprit parce qu'elle voit que sa sœur ne fait rien. Mais elle n'a pas compris quelle était sa place. Et ses raisonnements, ses calculs, ses jugements l'empêchent même d'écouter la voix du Seigneur. Quand on est chrétien, quand on est disciple de Christ, on peut faire une activité et en même temps entendre Dieu nous parler. C'est possible. Sinon, on ne pourrait pas prêcher. C'est qu'à un moment donné, on reçoit aussi. Et on a l'oreille qui traîne, comme on dit, pour écouter les messages qui viennent en haut. Les messages de Dieu, ce qu'il veut nous donner. C'est important d'avoir cette oreille attentive. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est écrit. Cela prouve quoi? Cela montre quoi? Ben qu'il faut regarder. Comme Moïse qui voit un buisson ardent qui ne se consume pas. Des buissons comme ça, épineux, résineux, qui brûlaient, il en voyait peut-être même tous les jours. Parce que c'était courant dans le désert. Sauf que, comme il avait le regard là qui traînait, il a pu remarquer qu'il ne se consumait pas celui-là. Et là, il a été interpellé. Mais ça démontre une attitude quand même. Seigneur, si tu veux me parler, eh bien, est-ce que moi déjà je suis attentif ou est-ce que je suis sans cesse dans les distractions? Est-ce que je suis sans cesse pris par ceci, par cela, par mes inquiétudes, par... Et finalement, quand Dieu me parle, ça ne sert à rien parce que je n'écoute pas. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. On va demander au Seigneur sa grâce. Je vais m'arrêter là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. L'apôtre Paul dit aussi qu'il courait pour atteindre un objectif qu'il discernait très très bien. Et on comprend, alors qu'il dit ces paroles, que rien ne pouvait venir le distraire. Il avait le regard fixé sur l'objectif. Il avait le regard fixé sur l'arrivée. Et l'apôtre Paul était quelqu'un qui était décidé de tout son cœur à arriver. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que dans ta vie, alors que tu réfléchis encore à ces paroles, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont loin d'être édifiantes pour toi? Est-ce que tu réalises qu'il y a des choses dans ta vie qui prennent une place, qu'elles n'ont pas à prendre? J'ai parlé du téléphone, mais ça peut être tellement d'autres choses. Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Est-ce que tu te rends compte que tu vis ta vie avec Dieu, mais ça sert à rien? Que tu es inutile? Tu es inutilisable par Dieu parce que tu n'es pas à son écoute? Est-ce que peut-être tu t'es retrouvé dans cette description d'une personne qui évite absolument le silence parce que elle ne veut pas être amenée à réfléchir aux vraies questions? Or, ce sont pourtant des questions salutaires. Ce sont des questions qui sont là pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu, qui voudrait t'entourer de ses bras d'amour, mais que toi, tu n'as pas réalisé. Peut-être que tu t'es retrouvé dans cette description de cette personne qui est ainsi toujours à courir à droite, à gauche, pour ne surtout pas penser, pour ne surtout pas t'inquiéter. Mais tu sais que si tu appartiens à Dieu, si tu deviens son enfant, tu pourras faire tienne cette promesse qui te dit « ne vous inquiétez de rien ». Et quand Dieu nous laisse cette promesse, c'est parce qu'il s'occupe des choses. C'est une des grâces de l'enfant de Dieu. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est une vraie grâce que de ne pas avoir à s'inquiéter. J'aimerais te dire que si tu as besoin de la prière, si tu n'as même pas la force peut-être de prier, eh bien, on priera pour toi. On s'associera avec toi dans la prière, toi qui as besoin du secours de Dieu, toi qui t'es reconnu dans cette description. N'hésite pas à venir t'approcher sur le devant. Ne regarde pas au regard des autres. C'est une affaire entre toi et Dieu. Ce soir, ça peut être l'occasion pour toi de prendre la victoire sur tout ce qui te prive des grâces que Dieu veut te donner, de tout ce qui te prive des bienfaits que Dieu veut te donner. Tu peux demander au Seigneur son secours. Tu n'y arriveras pas par tes propres forces. C'est seulement le Seigneur qui peut travailler ton cœur et qui peut te changer. Seigneur notre Dieu, je te prie, Seigneur, pour que par ton esprit, Seigneur, des victoires soient remportées. Tu vois tous ces cœurs, Seigneur, où il peut y avoir un combat spirituel. Je te prie, Seigneur, pour que, oui, des victoires soient remportées ce soir. Et pour peut-être nos amis, nos frères, nos sœurs, mes frères, mes sœurs, qui ont besoin de ta grâce ce soir, ils puissent trouver le courage, prendre courage et demander ta grâce. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour les bienfaits que tu veux nous donner.